terre, elle brille, en fait. Elle est d'un bleu brillant, elle lui...
Houston, we have a problem.
It's one small step for man. One giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Et puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb, qui découvrons des terres nouvelles, qui jusqu'à présent n'étaient que les petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars would be the greatest adventure ever.
Voilà, on est toujours en direct en ce mercredi 5 avril. Voilà, histoire de se mettre un petit peu dans une belle ambiance. Ravi de vous retrouver, Michel. Bonjour, bienvenue chez vous, hein, je suis tenté de dire. 97e chronique astro. Alors, je ne me rappelle pas en termes d'année, hein, chaque fois combien
bonjour,
ça fait.
Bonjour, Joël. On a commencé en septembre 2014.
Voilà, heureusement que...
Ça Michel fait bientôt 9 ans.
Voilà, alors, on redira quelques mots, bien sûr, sur le site constellationsetgalaxies.org où on peut retrouver tous les chroniques. Mais si vous voulez bien, Michel, eh bien, attaquer façon de parler votre chronique et vous allez nous parler d'actu. Alors quand j'ai reçu le mail, quand vous nous parliez d'un astéroïde qui va percuter la Terre, mais c'est pas avant 2046.
Voilà, cette prédiction que nos auditeurs ont pu entendre le mois dernier dans les médias suit la découverte le 23 février de l'astéroïde numéroté 2023 DW, d'ailleurs par deux Français, Alain Maury et Georges Attard, mais avec un télescope basé au Chili dans le désert de l'Atacama. Alors je me permets une petite anecdote personnelle, j'avais eu l'occasion de rencontrer Alain Maury là-bas en 2004, lorsque j'étais allé voir le ciel exceptionnel de l'Atacama et visiter les grands télescopes basés au Chili, dont le fameux VLT, le Very Large Telescope, un des plus grands observatoires du monde avec ses 4 télescopes de 8,20 m de diamètre. À l'époque, il accueillait déjà les touristes à San Pedro de Atacama pour observer le ciel avec une belle collection de télescopes de bonne taille, et depuis il a complété son activité avec une ferme de télescopes. C'est-à-dire qu'il héberge et entretient des télescopes qui appartiennent à des astronomes européens ou qui sont loués par eux. C'est devenu une pratique de certains astronomes qui exploitent en remote, comme on dit en beau français, hein, c'est-à-dire à distance via Internet, des télescopes installés dans les régions où le ciel est de grande qualité, comme au Chili dans l'Atacama, dans le sud de l'Afrique ou des déserts américains comme le Nouveau-Mexique. Alain Maury n'en néglige pas pour autant ses propres travaux de recherche, et notamment en ce qui concerne les astéroïdes, ayant même inventé en 1993 le terme géocroiseur pour désigner ceux qui croisent parfois l'orbite de la Terre, alors qu'il était chercheur à l'observatoire du Mont Palomar en Californie. Le nouvel astéroïde qu'il a découvert fin février avec un petit télescope de 28 cm est justement un géocroiseur. Selon les calculs de trajectoire actuels, 2023 DW aurait un peu moins de 1% de chance, hein, si je veux être plus précis, ce sera à peu près une chance sur 400, de percuter la Terre le 14 février 2046. Hein, ce serait pas de chance pour la Saint-Valentin dans 23 ans. Estimé à 50 mètres de diamètre, son impact pourrait avoir des conséquences à l'échelle régionale, analogue à celui de la Tunguska en 1908, qui avait abattu des arbres sur 2000 km². Pour le moment, on peut rassurer nos auditeurs sur cette perspective de catastrophe, car avec les calculs actuels, il y a environ 99,75% de chances qu'il n'y ait pas de collision en 2046. Et ces calculs sont relativement imprécis, car basés sur seulement quelques jours d'observation de cet objet céleste, alors que pour préciser l'orbite d'un corps du système solaire, il faut multiplier les observations. De plus, la trajectoire de 2023 DW est un peu plus petite que l'orbite de la Terre, puisqu'il effectue un tour du Soleil en seulement 271 jours, ce qui l'amène à passer aussi au voisinage de Vénus, ce qui complique la prévision de sa trajectoire, car lorsqu'un petit corps s'approche d'une planète, il en subit l'attraction gravitationnelle, ce qui modifie plus ou moins son orbite selon la distance qui sépare les deux astres. Pour le moment, il convient donc de laisser le temps aux astronomes de poursuivre leurs observations avant de déterminer s'il existe vraiment un risque de collision avec la Terre dans une vingtaine d'années.
Alors Michel, peut-être faire un premier bilan des résultats du JWST après presque un an d'observation.
Oui, alors je dois signaler que ces informations résumées proviennent du magazine Ciel et Espace, la revue de l'AFA, Association Française d'Astronomie, dont le numéro 588 hein, pour avril-mai est actuellement disponible en kiosque pour ceux qui voudraient approfondir ce sujet, qui est le thème principal traité dans une série d'articles. Même si on l'a déjà évoqué plusieurs fois ici, notamment entre son lancement en décembre 2021 et ses premières images en juillet 2022, je rappelle à nos auditeurs que le JWST, ou James Webb Space Telescope, est le nouveau télescope spatial de la NASA, en partenariat avec l'ESA, l'Agence spatiale européenne, et qu'il dépasse notablement les capacités de son prédécesseur Hubble, lancé en 1990 et toujours en service. Surtout pour deux raisons, son miroir beaucoup plus gros, de 6,50 m contre 2,40 m, et ses instruments qui observent dans l'infrarouge, alors que ceux de Hubble fonctionnaient essentiellement dans la lumière visible. L'infrarouge permet de voir plus loin dans l'espace, donc dans le passé, car en raison de l'expansion de l'univers, la lumière nous provenant des galaxies lointaines est décalée vers le rouge, et même l'infrarouge pour les plus lointaines. L'infrarouge passe mieux au travers des nuages de poussière, permettant de voir ce qui se passe à l'intérieur, par exemple lors de la formation de nouvelles étoiles qui se déroulent dans une sorte de cocon de gaz et de poussière. Les objets relativement froids par rapport aux étoiles, par exemple de grands nuages de gaz, émettent dans l'infrarouge. Et enfin, c'est dans l'infrarouge qu'on peut détecter la signature de certaines molécules sous forme de raies dans les spectres, par exemple la présence d'eau dans l'atmosphère de certaines exoplanètes. Donc les astronomes avaient fondé de grands espoirs sur la mise en service du JWST, remarquablement réussi à la fin du printemps 2022, notamment grâce au lanceur européen Ariane 5, dont la trajectoire a été tellement précise qu'elle a permis d'économiser le carburant du JWST, prévu pour se recaler sur la bonne trajectoire puis corriger sa position tout au long de son fonctionnement, ce qui a fait bondir la durée d'exploitation de cet instrument des 10 ans prévus jusqu'à plus de 20 ans.
Alors on peut peut-être dire quelques mots sur les résultats du JWST. Sont-ils notamment à la hauteur des espoirs qui ont été placés en lui ?
Alors tout d'abord, il faut dire que les astronomes sont très impressionnés par les performances du JWST, car les images sont de meilleure qualité que ce qui avait été prévu. Son miroir et ses instruments fonctionnent donc parfaitement, mais il y a juste un petit bémol. Comme je l'avais dit ici l'été dernier, le miroir a été frappé en mai 2022 par une micrométéorite qui a produit un impact plus grave que ce qui avait été estimé pour l'usure progressive du télescope au fil du temps, ce qui pouvait faire craindre une dégradation plus rapide. Il a donc été décidé de modifier la stratégie d'exploitation du JWST en évitant au maximum de pointer dans les directions où le risque d'impact est le plus fort, ce qui devrait réduire le risque d'environ 40%. Une autre précision, si pour le public ce sont surtout les images produites par le JWST qu'on admire, images recolorisées en fausse couleur car les caméras fournissent des photos en noir et blanc et qui correspondent en fait à une vision en infrarouge, donc en réalité totalement invisible à nos yeux humains, pour les scientifiques ce sont surtout les spectres qui sont utiles, c'est-à-dire la décomposition de la lumière comme dans un arc-en-ciel, car on y trouve un très grand nombre d'informations sur la composition, la température ou la vitesse des objets observés. Cet enthousiasme des astronomes pour le JWST peut se mesurer à la hauteur des demandes d'observation faites pour la deuxième campagne d'observation. Elles ont battu un record avec 1602 propositions provenant de 52 pays et représenteraient un temps d'observation total 7 fois plus grand que ce qu'il est effectivement possible de réaliser. Si on reprend un par un les champs d'études prévus pour le JWST après presque un an de fonctionnement, on constate que l'une de ses premières missions est bien remplie, car il a permis d'observer des galaxies extrêmement lointaines, nous faisant remonter très loin dans le passé, à seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, pour mieux comprendre la naissance et l'évolution de l'univers. Le record sera une galaxie datée à 320 millions d'années après le Big Bang, soit quand l'univers n'avait que 2% de son âge actuel, estimé à 13,8 milliards d'années. Elle a été trouvée dans une zone observée par Hubble, mais qui ne pouvait pas la voir, car avec son grand miroir et ses instruments infrarouges, le JWST nous révèle beaucoup plus de galaxies anciennes. Dans un sens, la population de galaxies anciennes qu'il révèle confirme nos théories actuelles sur l'évolution de l'univers, car elles sont nettement plus petites que les grandes galaxies actuelles, dont on estime qu'elles se sont formées par agrégation progressive de galaxies plus petites au fil du temps. Les estimations de ces galaxies anciennes sont souvent dans une fourchette de 10 à 100 millions d'étoiles comme le Soleil, soit environ 1000 fois plus petites que les galaxies comparables à notre Voie lactée d'environ 200 milliards d'étoiles. Par contre, nos théories sont contredites sur un autre point. Alors qu'on pensait que ces galaxies primitives devaient avoir des structures très élémentaires, la finesse des images fournies par le JWST révèle des ellipses et même des spirales, alors qu'on pensait que ces structures n'émergeaient qu'après une longue évolution, au fur et à mesure de la fusion des galaxies plus petites. Les astrophysiciens devront donc revoir leurs copies et imaginer les mécanismes ayant pu conduire à ces galaxies évoluer, si je peux dire, si tôt dans l'histoire de l'univers. L'histoire de l'astronomie nous montre que l'apparition de nouveaux instruments d'observation a régulièrement conduit à revoir notre conception de l'univers. Par exemple, la lunette de Galilée, révélant mieux la Lune, les planètes et leurs satellites, a conduit à confirmer le modèle géocentrique de système solaire proposé par Copernic. Le grand télescope du mont Wilson, révélant au début du XXe siècle à Edwin Hubble qu'il existait d'autres univers, d'autres galaxies pardon, que la Voie lactée, et lui permettant de découvrir l'expansion de l'univers, à l'origine, avec la théorie de la relativité d'Einstein, de notre modèle de Big Bang. Il semble donc que dans le domaine de la cosmologie, le JWST ne marquera pas une simple évolution de nos connaissances, mais pourrait conduire à un saut dans notre compréhension de l'univers et de son histoire. Cela justifierait amplement les 30 ans de travaux et 10 milliards de dollars qu'il a coûté.
Alors, dans les autres domaines, est-ce qu'il y a aussi des résultats intéressants ?
Dans l'observation des galaxies anciennes, les astronomes ont relevé aussi qu'elles contenaient plus d'étoiles très massives, par exemple dans les 30 fois la taille du Soleil. On pensait que les premières étoiles étaient plus massives car elles s'étaient formées dans un univers plus petit, donc plus dense, avec plus de matière disponible localement, mais pas dans une telle proportion. Il faudra donc aussi réviser nos modèles de formation de la première génération d'étoiles dans l'univers jeune. Dans le domaine de la formation d'étoiles, les instruments infrarouges du JWST, capables de percer les nuages de poussière, nous révèlent beaucoup plus d'étoiles très jeunes. Par exemple, en observant NGC 346, une zone de formation d'étoiles dans le petit nuage de Magellan, qui est une petite galaxie satellite de la Voie lactée. Avec ses instruments dans la lumière visible, Hubble ne pouvait pas percer la poussière. Et le précédent télescope infrarouge, Spitzer, avait un tout petit miroir de même pas un mètre, ce qui lui avait permis de n'y voir que 87 étoiles, forcément les plus lumineuses, donc les plus grosses. Avec le JWST, ce sont 33 000 jeunes étoiles qui sont détectables, et de toute taille, ce qui donne une population beaucoup plus représentative et permettra aux astronomes de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre dans de telles régions de l'espace. Autre exemple, avec l'observation d'étoiles en formation dans une galaxie bien plus distante, à 220 millions d'années-lumière de nous. Dans une zone où on ne le pensait pas possible, car trop proche du trou noir supermassif au centre de cette galaxie. Là encore, des phénomènes qui restent à comprendre. Dans l'étude des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui orbitent autour d'autres étoiles que le Soleil, le JWST est aussi un outil précieux. En effet, quand on a la chance que l'exoplanète transite, c'est-à-dire passe régulièrement entre son étoile et nous, cela donne l'occasion d'observer son atmosphère, si elle en a une, car une toute petite fraction de la lumière que l'étoile nous envoie traverse cette atmosphère, ce qui modifie son spectre en permettant de savoir quelles molécules la composent. Mais pour cela, il faut un très grand télescope pour récolter assez de lumière afin d'observer cette toute petite différence dans le spectre de l'étoile. Et des capteurs infrarouges, car la signature des molécules intéressantes, comme l'eau, se révèle dans cette partie du spectre. Le JWST a démontré ses capacités dans ce domaine dès juillet 2022 en réalisant un spectre de l'atmosphère de WASP-96b, une planète de la taille de Jupiter qui orbite autour de son étoile en seulement 3 jours et demi, donc très proche d'elle, ce qu'on appelle une Jupiter chaude. Et ce spectre a révélé sans ambiguïté la présence d'eau dans son atmosphère, ce qu'on soupçonnait déjà avec les observations de Hubble, mais aussi de la quantifier plus précisément. À partir des données récoltées, une équipe de l'Institut de recherche spatiale d'Autriche a publié en novembre une étude démontrant que cela révélait la présence d'un système complexe de nuages, ce qu'on n'imaginait pas pour une telle planète. Pour une autre Jupiter chaude, le JWST a révélé dans son atmosphère la présence d'eau, de gaz carbonique, CO2, mais aussi de dioxyde de soufre, SO2, celui-ci ne pouvant être produit que par des réactions photochimiques, par exemple comme celles qui produisent de l'ozone dans l'atmosphère terrestre. Donc la preuve que l'atmosphère de ces planètes sont le siège de mécanismes bien plus complexes que ce qu'on pensait jusque-là. Avec sa sensibilité, le JWST devrait même pouvoir nous permettre d'explorer l'atmosphère d'exoplanètes beaucoup plus petites, comparables à la Terre. Mais dans ce domaine, il nous faut être patient, car les observations ne peuvent avoir lieu que lorsque le transit se produit, ce qui peut être beaucoup moins fréquent que pour les Jupiters chaudes, à des semaines, voire à des mois d'intervalle. Et pour augmenter la précision des mesures, il faut répéter les spectres. En guise de conclusion, le JWST a déjà produit des résultats remarquables et on peut s'attendre que dans les mois, les années à venir, il fournisse des données surprenantes qui nous obligeront à revoir nos théories dans de nombreux domaines de l'astrophysique.
Alors peut-être nous donner quelques nouvelles dans le domaine des missions spatiales humaines, Michel.
Oui, avec pour commencer le feuilleton, si j'ose dire, du Soyouz MS-22, arrimé à l'ISS, la Station Spatiale Internationale, qui avait été endommagé en décembre par l'impact d'une micrométéorite ou peut-être un débris spatial ayant perforé le radiateur extérieur de son système de refroidissement. Comme il y avait un risque d'échauffement trop important de son habitacle lors de la rentrée atmosphérique, l'agence spatiale russe Roscosmos avait décidé qu'il ne ramènerait pas sur Terre les trois astronautes qui devaient redescendre en mars, mais qu'il effectuerait le vol sans équipage. C'est ce qui a été fait le 28 mars dernier, avec une procédure automatique qui a ramené la capsule dans les steppes du Kazakhstan, apparemment sans dommage. Les mesures effectuées pendant le trajet ont montré que la température à bord serait montée jusqu'à 50 degrés s'il y avait eu un équipage. Un niveau théoriquement supportable avec les combinaisons comprenant un système de refroidissement, mais il était quand même préférable de ne pas en prendre le risque. Côté américain, la NASA a dévoilé hier la sélection des 4 astronautes qui embarqueraient à la fin de l'année prochaine pour la mission lunaire Artemis 2. Je rappelle qu'il ne s'agit pas encore de se poser à la surface de la Lune, ce qui est théoriquement prévu en 2025 avec Artemis 3, mais seulement d'aller jusqu'à notre satellite pour en effectuer une orbite, une mission comparable à celle d'Apollo 8 en décembre 1968. Pour cette opération, la NASA a choisi des astronautes expérimentés, comme son commandant, Red Wiseman, qui a effectué une mission de 165 jours à bord de l'ISS en 2014. Le pilote, Victor Glover, y a aussi séjourné 6 mois entre novembre 2020 et mai 2021. Et c'est aussi le cas de Christina Kaur, qui détient le record féminin de séjour dans l'espace avec 328 jours à bord de l'ISS en 2019 et 2020. Le seul novice de l'équipage est Jeremy Hansen, de l'Agence spatiale canadienne, partenaire de la NASA pour le programme Artemis. Avec cette composition, on mesure quand même l'évolution de la société, au moins dans le domaine spatial, car elle est assez différente des 3 astronautes américains blancs des équipages Apollo, avec un non-américain, Jeremy Hansen, une femme, Christina Kaur, et un afro-américain, comme on dit en langage politiquement correct pour désigner un noir, Victor Glover. Une quinzaine de jours plus tôt, le 15 mars dernier, la société américaine Axiom avait officiellement présenté son premier prototype de scaphandre qui devrait être utilisé en 2025 pour le retour des astronautes à la surface de la Lune. Bien entendu, il est assez différent des vénérables modèles utilisés il y a plus de 50 ans par les missions Apollo. Ses bras et ses jambes sont dotés d'articulations beaucoup plus souples, permettant une bien meilleure mobilité. Ils sont fixés sur un torse rigide, la combinaison s'enfilant d'une seule pièce en pénétrant par l'arrière, le système de survie s'ouvrant comme une porte. Le système de survie, c'est l'espèce de sac à dos comprenant tous les dispositifs autonomes alimentant le scaphandre en oxygène et assurant les différentes régulations, comme par exemple la température. C'est très différent des combinaisons Apollo constituées de plusieurs éléments qu'il devait être patiemment assemblés sur les astronautes. Le casque, très largement transparent pour permettre une vision panoramique, est équipé de 4 projecteurs pour s'éclairer quand on traverse une zone à l'ombre et d'une caméra haute définition permettant de suivre les évolutions de l'astronaute. Le modèle présenté au cours d'une courte démonstration était bleu, mais il lui manque encore des couches de protection externe qui seront blanches. En principe, la société doit livrer les premiers exemplaires d'entraînement à la NASA dès cet été. Par contre, rien n'a été encore dévoilé concernant la fourniture des modèles opérationnels qui devraient être au plus tard mi-2025 afin d'effectuer les tests nécessaires, notamment à bord de l'ISS, en vue du vol Artemis 3, toujours prévu en principe pour décembre 2025. Et enfin, si on regarde du côté de l'Europe, on a appris ces derniers jours que la Française Sophie Adnaud, sélectionnée en novembre dernier dans la nouvelle promotion de spationautes européens par l'ESA, a rejoint Cologne en Allemagne pour commencer son entraînement en vue de rejoindre l'ISS. On sait que cette génération de spationautes, et même peut-être la précédente avec Thomas Pesquet qui s'est déjà déclaré candidat, sont susceptibles de rejoindre le programme Artemis dans le cadre de la coopération de l'ESA avec la NASA. Et donc on devrait voir un ou plusieurs Européens fouler le sol lunaire avant la fin de la décennie. Mais peut-être que dans le futur, l'Europe se dotera des moyens de rejoindre la Lune de manière autonome.
Allez, on est toujours en direct. C'est notre journal sur de radio en ce mercredi 5 avril, toujours avec Michel Favré pour sa 97e chronique astro. Et là, Michel, vous allez nous parler du sujet du mois. Et si l'Europe voulait décrocher la Lune, point d'interrogation.
Oui. Alors, ce sont ces actualités récentes que je viens d'évoquer, mais aussi des annonces faites fin mars qui ont motivé le choix de ce sujet. En effet, on peut se demander quelles sont les ambitions propres de l'Europe dans le domaine des missions habitées et pourquoi pas lunaires. À côté de la nouvelle course à la Lune que se livrent les Américains et les Chinois, dont on connaît peu la stratégie et le planning pour ce qui concerne le retour d'hommes sur la Lune. Mais avant d'évoquer l'avenir, rappelons-nous de l'histoire spatiale européenne. Après la Deuxième Guerre mondiale, quand Russes et Américains s'engageaient dans une féroce concurrence dans le domaine spatial puis la course à la Lune, en prospérant sur les ingénieurs et technologies nazies qu'ils avaient pu récupérer, les Européens essayaient eux aussi d'accéder à l'espace, mais en ordre dispersé, avec notamment quelques percées françaises, le lancement de la première fusée française Lex en avril 1964, qui n'avait atteint que 1 km d'altitude, suivi d'autres tirs les mois suivants jusqu'à l'envoi de son premier satellite, Astérix, comparable au premier Spoutnik russe, en novembre 1965. Nous avions été devancés de presque un an avec le premier satellite italien, San Marco 1, en décembre 1964, lui-même précédé par Ariel 1 des Britanniques en avril 1962, mais ceux-ci avaient été lancés par des fusées américaines. Assez vite, les pays européens, notamment la France et le Royaume-Uni, ont fait le constat que le domaine spatial nécessitait des moyens très importants pour essayer de se hausser au niveau des Américains et des Soviétiques, ce qui justifiait donc une coopération internationale. En décembre 1960, 11 pays réunis en Suisse décident la création de la Commission préparatoire européenne pour la recherche spatiale, ou COPERS, dont les travaux aboutiront 2 ans plus tard à la création de l'ESRO, European Space Research Organization, en français Conseil européen de recherche spatiale, réunissant 9 pays européens, et 6 d'entre eux décidèrent de créer aussi l'ELDO, European Launcher Development Organization, en français Centre européen pour la construction de lanceurs d'engins spatiaux, pour développer un lanceur européen baptisé à l'époque Europa. Mais ces organisations, peinant à atteindre leurs objectifs, avec par exemple 7 échecs sur 7 tirs d'Europa, à partir de 1968 est d'évoquer la possibilité de créer une agence spatiale unique. C'est en juillet 1973 qu'un accord est conclu entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni pour créer l'Agence spatiale européenne, ESA, avec au départ 3 objectifs satisfaisant les souhaits de chacun des partenaires. Le développement sous l'égide du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, du lanceur Ariane souhaité par les Français, la participation au module de recherche américain Space Lab souhaité par les Allemands et un satellite de communication souhaité par le Royaume-Uni. Et depuis 50 ans, l'ESA a prospéré dans de nombreux domaines de la conquête spatiale.
Et pour le public, c'est surtout le succès de la fusée Ariane ?
Effectivement, mais ce n'était pas gagné au départ. Si le tout premier essai d'Ariane 1 s'est bien déroulé sans problème le 24 décembre 1979, un beau cadeau de Noël, ainsi que les 2 vols de qualification les mois suivants, le premier tir commercial, le 10 septembre 1982, en présence du président de la République de l'époque, François Mitterrand, s'est soldé par un échec, avec l'arrêt des moteurs après 7 minutes de vol, nécessitant de détruire la fusée et les 2 satellites qu'elle transportait. Mais l'histoire d'Ariane s'est ensuite bien déroulée, avec de très nombreux succès et des lanceurs de plus en plus puissants et fiables. La génération actuelle, Ariane 5, est capable d'emporter jusqu'à 211 tonnes en orbite basse ou 10 tonnes et demie en orbite géostationnaire dans sa version la plus puissante. Et c'est le lanceur le plus fiable, avec seulement 3 échecs depuis sa mise en service en 1996, avec en moyenne environ 6 tirs par an depuis 2005. La succession doit être assurée par Ariane 6, dont le premier tir d'essai est attendu pour la fin de cette année. Côté lanceur, le challenge pour l'ESA vient de sociétés privées, notamment SpaceX, qui a fait baisser les coûts de lancement avec son Falcon 9 partiellement réutilisable. Les Européens travaillent donc eux aussi sur une nouvelle génération de lanceurs réutilisables. Avec Ariane, l'ESA a ouvert la porte à l'Europe pour l'envoi de satellites dans tous les domaines, comme les télécommunications, la météorologie, le programme d'observation de la Terre Copernicus ou son propre système de géopositionnement, Galileo, l'équivalent du GPS américain, sauf qu'il est totalement sous contrôle civil, alors que le GPS est d'abord un outil militaire. L'ESA, dans le cadre de ses programmes scientifiques Horizon 2000, de 85 à 2000, puis Horizon 2000+, qui est poursuivi jusqu'en 2017, et actuellement Cosmic Vision, a développé de nombreuses missions d'exploration spatiale dans différents domaines. Par exemple, dans l'astrométrie, c'est-à-dire la connaissance de la position des objets célestes, avec Hipparcos dans les années 1990, qui a produit un catalogue de plus de 1 million d'étoiles. Puis son successeur Gaïa, encore en service, qui a déjà publié un catalogue de presque 2 milliards d'étoiles. Le télescope Euclide, qui doit être lancé cette année, étudiera quant à lui environ 35 millions de galaxies, selon les prévisions. Les télescopes spatiaux de l'ESA ont également étudié l'univers dans le domaine des rayons X, avec XMM Newton, lancé en 1999 et encore en service, et dans l'infrarouge, avec notamment les télescopes Planck et Herschel, lancés ensemble en 2009 et qui ont fonctionné jusqu'en 2013. Sans oublier les partenariats avec la NASA pour les télescopes Hubble et JWST. Dans le domaine de l'exploration du système solaire par des sondes spatiales, l'ESA a réussi de nombreuses missions prestigieuses, comme Giotto, lancé en 1985 par Ariane pour rejoindre la comète de Halley, et Rosetta, lancé par Ariane 5, qui a accompagné la comète Chury pendant plus de 2 ans entre 2014 et 2016, après une mise en sommeil record de plus de 3 ans pour aller rejoindre la comète en suivant une très longue trajectoire, l'amenant au-delà de l'orbite de Jupiter. L'une des missions spatiales les plus lointaines de la Terre, avec aussi l'atterrisseur Huygens, qui s'est posé en janvier 2005 sur Titan, le plus gros satellite de Saturne, après avoir voyagé avec la sonde Cassini de la NASA. Notre orbiteur Vénus Express a tourné de 2006 à 2014 autour de la planète Vénus pour l'étudier. La sonde BepiColombo, Colombo, une mission en coopération avec l'agence spatiale japonaise JAXA, est actuellement en route pour rejoindre Mercure en 2025. Mais comme la plupart des autres agences spatiales, l'ESA vise surtout Mars, planète assez facile à rejoindre en environ 6 mois quand elle est au plus près de la Terre, et particulièrement intéressante car avec la présence d'eau liquide à sa surface par le passé, elle est susceptible d'avoir vu s'y développer la vie, voire même d'en héberger encore actuellement. Et c'est la sonde Mars Express qui a été lancée en 2003 et qui orbite encore autour de la planète rouge, avec peut-être une prolongation de sa mission jusqu'en 2028. Ses principaux résultats concernent la présence et l'histoire de l'eau sur Mars. La mission ExoMars, lancée en 2016, est un demi-succès car si son orbiteur fonctionne parfaitement pour étudier l'atmosphère martienne, son atterrisseur Schiaparelli s'est écrasé, comme beaucoup d'autres missions martiennes russes ou américaines auparavant. On devait retenter de se poser avec le rover de la mission ExoMars 2018, qui est devenu ExoMars 2022 suite à des reports successifs liés à des problèmes techniques, mais il n'a pas pu être lancé l'automne dernier comme prévu, en raison de la guerre en Ukraine, car il devait être propulsé par une fusée russe Proton, mais toute coopération spatiale a été suspendue avec la Russie, sauf pour ce qui concerne l'ISS. C'est une déconvenue que ne connaîtra pas la mission JUICE, qui doit être lancée la semaine prochaine, le 13 avril, par une fusée Ariane 5 depuis la base de Kourou. Comme son nom l'indique, JUICE, pour Jupiter Icy Moons Explorer, en français explorateur des lunes glacées de Jupiter, va l'étudier à partir de 2029 3 des 4 satellites galiléens de Jupiter, Europe, Callisto puis Ganymède, qui ont en commun de posséder beaucoup de glace dans leur croûte rocheuse.
Alors, de nombreuses réussites spatiales pour l'ESA, mais qu'en est-il des missions humaines ?
Comme on le sait, des spationautes européens participent à des missions spatiales dans le cadre de partenariats avec des agences spatiales russes et américaines. L'ESA ayant développé le laboratoire spatial américain Space Lab dans les années 1980-90, cela lui a ouvert l'accès aux navettes spatiales pour ses spationautes. 16 d'entre eux ont participé à 18 missions des navettes. Parmi eux, le français Jean-Jacques Favier, qui avait volé en 1996 à bord de Columbia et nous a quittés le 19 mars dernier à l'âge de 73 ans. Parallèlement, il y a eu 11 Européens sur 14 missions Soyouz, certaines à destination de la station spatiale soviétique Mir des années 1980-90, comme les Français Jean-Loup Chrétien, Jean-Pierre et Claudie Aigneret. Et la participation de l'ESA à l'ISS, notamment avec son module Columbus et les nœuds de jonction des principaux modules, lui ouvre 8,3% des droits de la partie non russe, ce qui permet d'y envoyer un spationaute environ 3-4 mois par an en moyenne. Et je ne peux pas évoquer l'ISS sans parler bien sûr de notre Thomas Pesquet national, qui a déjà fait 2 séjours d'environ 6 mois chacun à bord, en 2016-17, puis en 2021, mission pendant laquelle il s'est vu confier la responsabilité de commandant de l'ISS pendant 1 mois, ce qui constitue un bon point pour son éventuelle sélection par la NASA en vue d'intégrer le programme lunaire Artemis. Donc, pas mal de missions humaines, mais on remarquera qu'à chaque fois, c'est au travers de partenariats et l'utilisation des lanceurs d'autres agences, les navettes spatiales américaines, les Soyouz russes et plus récemment les Crew Dragon de SpaceX. Pourtant, l'ESA s'est posé la question de la possibilité de réaliser des missions habitées en toute autonomie dès 1975. Elle avait envisagé de développer une petite navette spatiale baptisée Hermès, permettant de transporter 3 astronautes jusqu'à l'ISS en utilisant le lanceur Ariane 4, puis Ariane 5 après que les études aient conduit à l'alourdissement de l'engin, passant de 10 tonnes prévues au départ à 23 tonnes au milieu des années 1980. Mais finalement, le projet a été abandonné en 1992 et l'ESA a renoncé à la possibilité de réaliser ses propres missions habitées au profit d'une coopération avec les autres agences, du moins jusqu'à cette année.
Alors justement, pourquoi est-ce qu'il y a du nouveau, Michel ?
Oui, et c'est très récent, avec la publication le 23 mars dernier du rapport de l'HLAG, High Level Advisory Group, ou groupe consultatif de haut niveau, rapport intitulé « La révolution de l'espace, la mission européenne en matière d'exploration spatiale », du moins si je le traduis en français. Ce groupe, composé de 12 experts, avait été constitué à la demande du président de la République suite à la conférence ministérielle des pays membres de l'ESA en novembre dernier pour réfléchir à la stratégie spatiale de l'Europe. Pour le former, l'ESA avait contacté des personnes diverses n'ayant rien à voir avec le secteur spatial, voulues comme représentatives de la société, dont des politiques, un artiste, un ancien secrétaire général de l'OTAN, par exemple. Pour ces travaux, ils ont reçu des informations techniques de l'ESA et audité des experts du domaine spatial. Leur rapport a été présenté lors de la 315e session du Conseil de l'ESA à Paris et claque comme un défi à la Kennedy, hein, que je rappelle avait lancé la course à la Lune dans un discours devant le Congrès américain. Avec par exemple page 35, cette recommandation en gros caractères, un scénario pour un débarquement humain sur la Lune, indépendant et durable, dans les 10 ans. Rien que... Constatant que l'espace est aussi la course vers un marché économique très prospère, estimé à plus de 1 000 milliards d'euros d'ici 2040, et une course géopolitique entre les États-Unis et la Chine, dont l'Europe est globalement absente, par exemple en dirigeant que 2 des 100 missions lunaires prévues d'ici 2030, le rapport demande à l'Europe de se réveiller et envisage une mission audacieuse qui galvaniserait et révolutionnerait toute l'économie européenne, à l'instar du programme Apollo pour les États-Unis dans les années 1960-70. Si l'on suit ces préconisations, l'Europe ne devra pas continuer à s'appuyer sur les lanceurs de missions habitées américains et russes, mais doit développer une capacité autonome, comme la Chine aujourd'hui et bientôt l'Inde, pour rester dans la course et espérer obtenir un tiers du futur marché spatial. Pour cela, il faudrait agir vite et changer les relations entre l'ESA et les industriels du secteur privé en s'inspirant de l'approche de la NASA avec des sociétés comme SpaceX et Boeing. Le but est d'évoluer plus rapidement en laissant au privé toute son inventivité pour concevoir les équipements nécessaires au programme de l'agence qui viserait à envoyer de manière autonome des humains dans l'espace et jusqu'à la Lune. Cela pourrait passer par le projet Argonaut, un module lunaire qu'elle pourrait proposer à la NASA pour assurer les trajets entre la Lunar Gateway et la surface lunaire, en concurrence du Starship de SpaceX autour duquel règne un certain flou. Au passage, hein, comme contrairement à ce que j'avais annoncé ces dernières chroniques, il n'a pas réalisé le premier tir avec son étage super heavy en mars comme on l'attendait. La future Ariane 6, dans sa version la plus puissante, avec 4 propulseurs à poudre au décollage, aurait la capacité d'acheminer le module Argonaut jusqu'à l'orbite lunaire. Mais avant de penser à une mission lunaire européenne autonome, il faudrait au préalable franchir l'étape de l'envoi d'astronautes en orbite terrestre, ce qui pourrait être fait dans le cadre du programme SUSY, proposé par Ariane Group en septembre. Il s'agit d'un véhicule spatial réutilisable, donc une sorte de petite navette, pouvant transporter jusqu'à 5 astronautes. Mais ce projet n'a pas été retenu par l'ESA à ce jour. Pour accepter ces nouvelles ambitions et les budgets qui vont avec, le groupe HLAG compte sur l'engouement du public pour le domaine spatial, qui aurait notablement augmenté ces dernières années, selon des sondages réalisés en 2019 et 2022, et notamment les raisons qui pousseraient les jeunes à s'orienter vers une carrière dans le domaine spatial, qui serait, selon 84% des réponses, la fascination pour l'espace. Les propositions de ce rapport devraient être reprises par l'ESA pour proposer une feuille de route ambitieuse et une augmentation substantielle de son budget lors de la prochaine réunion ministérielle prévue en novembre 2023. Selon les avis recueillis auprès des représentants des différents pays lors d'une réunion préparatoire, les observateurs semblent plutôt optimistes sur l'accueil qui pourrait être réservé à ces projets. Donc peut-être une nouvelle impulsion pour l'Europe spatiale à la fin de l'année.
Allez, toujours avec Michel Favré, on est en direct sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne. On est toujours sur la 97e chronique astro. Et là, Michel, vous allez aborder la troisième partie de votre chronique et nous parler du ciel du mois.
Oui, alors comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org. Pour voir les cartes du ciel correspondantes, hein, c'est pas évident de montrer des cartes à la radio, et avoir plus de détails, je la mettrai à jour pour avril cet après-midi ou demain. Avec le passage à l'heure d'été le 26 mars dernier, mais aussi l'allongement des journées pendant le printemps, la nuit commence assez tard en avril, avec le coucher du soleil vers 20h30 en ce moment et la nuit noire vers 21h30. À la fin du mois, cela aura encore reculé d'une demi-heure environ, avec le coucher vers 21h et la nuit à 22h15. L'entrée dans le printemps se traduit aussi sur la voûte céleste avec en ce moment les constellations de la saison qui occupent déjà toute la moitié est du ciel en début de nuit, alors que celle de l'hiver traîne encore un peu dans la moitié ouest avant de partir se coucher. Vers le sud-ouest, la silhouette bien reconnaissable du chasseur Orion, entourée de la figure en forme de G formée par les étoiles les plus brillantes des constellations voisines. Aldébaran du Taureau, Capella du Cochet, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien, l'étoile la plus brillante du ciel, produisant souvent comme une sorte de kaléidoscope coloré, et enfin Rigel, pied gauche d'Orion, puis Bellatrix et Bételgeuse, ses épaules formant la barre du G. À noter que cette figure est légèrement brouillée par la présence de Mars, encore bien brillante, dans les Gémeaux. Au sud-est, le dessin bien reconnaissable du lion, avec sa crinière en forme de faucille, juste sous les pattes de la Grande Ourse. Il est suivi par le Bouvier et la Vierge, constellation reconnaissable à une forme en Y, mais pas encore totalement levée en début de nuit. À la fin du mois, la situation aura bien évolué, avec en début de nuit les constellations du printemps complètement levées, le Lion bien haut dans le ciel plein sud, alors que celles de l'hiver seront reléguées tout à l'ouest, Orion déjà sur le point de se coucher. Côté planète, on ne peut pas rater le phare très brillant de Vénus vers l'ouest qui sera de plus en plus haut dans le ciel du soir au fil des jours et reste donc visible de plus en plus tard. Jupiter et Saturne sont actuellement trop proches du Soleil dans le ciel pour être observables. Mercure sera visible dans les lueurs du crépuscule en début de mois avec un écartement maximum au Soleil le 11. Et bien entendu, Mars, situé dans les Gémeaux, bien reconnaissable à sa couleur orangée, et qui a encore un éclat comparable à celui des étoiles les plus brillantes. Comme chaque mois, la Lune provoquera des conjonctions en s'approchant des planètes visibles. Le dimanche 23, un fin croissant de Lune sera proche de Vénus le soir. Si le ciel est bien transparent, on peut même tenter d'observer le rapprochement bien plus serré en début d'après-midi, vers 14h, si on arrive à repérer la Lune dans le ciel et en s'aidant éventuellement d'une paire de jumelles pour voir Vénus. Puis les mardis 25 et mercredi 26, le gros croissant s'approchera de Mars. À noter qu'il y aura une éclipse hybride de Soleil, c'est-à-dire soit totale, soit annulaire selon le lieu d'observation, le jeudi 20, mais absolument pas visible depuis la métropole, car se déroulant en Océanie et vers l'Australie, donc réservé à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie. Notre prochaine chronique devrait être le mercredi 3 mai, et nous y parlerons probablement un peu plus de la mission JUICE si elle a bien décollé de Kourou jeudi prochain.
Voilà, donc on va se retrouver bien sûr très bientôt pour une prochaine chronique. Michel, rappelez-nous, hein, même si vous l'avez cité bien sûr pendant votre chronique, le site où on peut retrouver toutes les chroniques archivées et puis avoir plein d'infos hein, sur l'astronomie.
Oui, alors Constellations et Galaxies, c'était l'association que j'avais créée et qui était active dans le domaine, disons, de l'éducation avec une intervention de planétarium, surtout dans les écoles et les collèges, les lycées. L'association n'existe plus depuis que je suis en retraite, mais le site existe toujours avec un rappel, disons, en archive de toutes ces activités de l'ancienne association. Et surtout, la partie qui continue à vivre, c'est la partie astronomie, avec le ciel du mois, que je mets à jour avec plus d'infos que ce que je fais ici en résumé, et les chroniques, toutes les chroniques audio radio depuis la première, dans l'ordre chronologique inverse, hein, c'est-à-dire la plus récente d'abord, c'est-à-dire celle d'aujourd'hui, elle apparaîtra en premier dès que je l'aurai mise en ligne cet après-midi ou demain, et avec un petit résumé qui permet de savoir de quoi parle la chronique, ce qui permet, si je peux dire, de piquer des chroniques qui sont intéressantes pour les éditeurs qui s'y intéressent. C'est sûr que d'écouter toutes les chroniques à la file, ce serait déjà des heures et des heures d'écoute, et en plus... pas forcément toujours intéressant. L'actualité d'il y a 4 ou 5 ans n'a peut-être plus beaucoup d'intérêt aujourd'hui.
Allez, on le rappelle, donc le site constellations-galaxies.org. Michel, on se retrouve le mois prochain. Hein.